Il est 9h41 sur France Inter, l'instant M de retour dans vos oreilles.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
2017, TF1 opère son grand retour dans l'actu politique. On y revient. Doc événements sur Macron, soirées électorales, débats d'avant-premier et d'entre-deux-tours émaillés l'un et l'autre de polémiques. Une émission politique créée ex nihilo pour la campagne, une chaîne info qui revient dans le match. Que restera-t-il des succès, mais aussi des accros de ce long feuilleton? Bonjour Catherine Neil.
Bonjour Sonia.
Directrice générale adjointe du groupe TF1 en charge de l'information, qui répond ce matin à nos questions. Hashtag Instant M.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Un mot d'actu des médias d'abord. Pépé the Frog is dead. Pépé the Frog est une grenouille rigolote, née de dessins animés pour enfants sur MySpace, récupérée depuis par l'extrême droite américaine qui en a fait un mème, c'est-à-dire une icône reproduite et détournée à l'infini sur Internet. Pépé est donc devenue la mascotte de l'alt-right, des suprématistes blancs portant croix gammée et symboles nazis sur fond de drapeau américain. Elle a été diffusée partout, Pépé, y compris en France, où la fachosphère se l'est appropriée, son créateur, Matt Furry, avait déjà lancé une campagne appelant à sauver Pépé the Frog. Save Pépé, rien n'y a fait. Par un simple dessin, il a décidé de tuer cette créature de BD qui lui a échappé. Cela n'empêchera sûrement pas le batracien de demeurer un symbole de haine, mais Matt Furry n'en assume plus la paternité. Le décret vient tout juste d'être publié. Il prendra effet à la rentrée. Toute image à usage commercial portera désormais la mention « photo retouchée » dès lors que l'apparence corporelle du mannequin a été modifiée pour affiner ou pour épaissir leur silhouette, précise ce décret, élaboré dans le cadre de la lutte contre les troubles du comportement alimentaire chez les jeunes notamment. Ça va toucher les pubs, les affiches, les magazines. Évidemment, l'Instant M va y revenir très rapidement parce que c'est une réflexion très intéressante sur notre culture de l'image et sur notre imaginaire du corps. Alors, TF1, l'info et la politique. Catherine L, je vous propose de remonter le temps. En fait, on va partir du plus récent, puis on va remonter au plus ancien. On va commencer lundi soir, Macron, les coulisses d'une victoire, Doc, événement, 200 jours de tournage, 90 minutes de prime time, sans voix off, on ne le dira jamais assez. C'est possible en prime time sur une chaîne généraliste. Des séquences en immersion, le futur président dicte à l'AFP sa réaction au ralliement de François Bayrou.
Je veux d'abord donc saluer moi, la décision de François Bayrou. C'est un geste courageux, inédit, et un tournant de la campagne présidentielle comme de notre vie politique.
Un tournant de la campagne présidentielle comme
de notre vie politique.
Maintenant qu'on l'a vu en entier, Catherine Neil, qu'est-ce que vous en tirez de ce documentaire, de ce qu'il raconte, de cette saga politique, si ce n'est... et ça m'a frappé essentiellement des actions de communication, des communicants à l'œuvre, gérant à chaud l'image du candidat. Où est la stratégie politique? Où est l'élaboration des idées? Où est l'élaboration du programme dans ce qu'on a vu?
Ce documentaire, c'était un parti pris. Mm-hmm. Et Yann Lénoré, qui est le réalisateur, a toujours été très clair. C'est un parti pris autour de la dynamique d'une équipe autour d'un candidat. Donc effectivement, l'équipe de communication et de stratégie, parce que chez eux, la stratégie politique est quand même très liée à la communication. Mais en revanche, et je pense qu'il y aura, il y a eu et il y aura sans doute d'autres docs sur la l'élaboration du programme, sur... Mais ça n'était pas le parti pris de ce documentaire
vous
sur TF1.
Vous ne trouvez pas que ça manquait cruellement
mais
quelque
on,
part
mais on peut estimer que ça manquait, même ouais. Si il y a quand même cet émaillé de réflexion politique.
Émaillé, c'est
qui
le terme.
Viennent... Oui, c'est émaillé, mais à un moment donné, un doc sur une campagne peut être pris, et vous le savez parfaitement, par des biais multiples. Là, le biais d'entrée de jeu, ça a été celui-là. Il faut l'assumer complètement,
oui.
Et dire que ça n'est pas un doc qui est complet. C'est un documentaire autour d'une dynamique et d'une stratégie de campagne qui passe par un programme, mais qui passe aussi par la gestion de l'image de son candidat.
Donc vous avez fait, vous, un coup assez magistral, hein, un documentaire en prime time, sans voix off, et pas consacré exclusivement à la Deuxième Guerre mondiale avec des images lourdement colorisées. Ça ne se voit jamais sur TF1. Donc c'était un pari largement suivi en termes d'audience. Ça reviendra, ce genre de coup, ce genre d'événement, cette capacité à casser l'antenne ?
Je pense que toute la campagne, pas simplement ce documentaire, toute la campagne a été conçu, imaginé, pas pour faire des coups, mais pour se dire que finalement l'ADN de TF1, que ce soit à l'info, et évidemment moi je porte l'info, mais que ce soit d'ailleurs sur l'ensemble des programmes, mm-hmm. que ce soit sur un match de foot de l'équipe de France, que ce soit sur un gros film, que notre plus à nous, c'est d'être dans l'événementiel, et c'est de proposer sans doute des choses que ne font pas les autres. Peut-être que la dimension risque n'était pas suffisamment prise et assumée. Et je pense que, grâce à cette séquence présidentielle, et par ailleurs, à ce que l'antenne porte, y compris, et d'ailleurs vous l'avez salué parfois avec Yann Barthès sur Quotidien.
On va y revenir.
Ces paris-là, ils sont de plus en plus pris.
On va y revenir. On continue de remonter le fil. Ça, c'était lundi soir. Lundi matin, retransmission des cérémonies du 8 mai. Séquence très politique. Hein, Macron, Hollande, Sarkozy à l'image. C'est pas tous les jours. Un chiffre très surprenant. Est-ce que vous avez une explication? Votre programme est suivi par 880 000 personnes. 950 000 sur BFM. 2 300 000 sur France 2. Qu'est-ce qui s'est passé?
À chaque fois, Sonia, que nous faisons, que nous cassons l'antenne, hors événement absolument exceptionnel, par exemple pour les attentats, le matin, nous avons un problème effectivement d'audience. Nos cases du matin, finalement, sont en construction, mais surtout à partir de 11h, midi, et bien sûr avec le journal de 13h. Et il n'y a pas, nous n'avons pas d'appui info le matin sur TF1. Nous faisons autre chose et c'est un choix d'antenne.
Vous n'avez pas de télématin,
nous n'avons
comme
pas
vous
de télématin, nous n'avons pas de journaux,
de matinale,
nous n'avons pas de matinale.
BFM,
voilà. Quand vous êtes sur un événement et que vous prenez juste l'antenne à 10h25 et que vous rendez à midi moins 10, mais qu'avant vous n'avez pas eu du tout d'infos, finalement, il est assez logique qu'une chaîne comme BFM ou France 2, qui part d'un journal, fasse plus. Bien sûr, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas décevant. Après, c'est un choix. On est aussi dans le statut. C'est difficile pour TF1 de ne pas montrer, même pour 800 000 personnes, l'image de Macron et de Hollande côte à côte.
Alors là, on va parler plutôt de 5 à 6 millions de personnes. La politique, on remonte toujours de jour en jour. Dimanche soir, la politique, c'est aussi les grandes soirées électorales. Il est un moment de télévision, évidemment, qui entre parmi d'autres dans l'histoire. C'est bien l'annonce des résultats à 20h. Et vous avez eu un peu la poisse, Catherine Neil. Premier tour.
Il est 20h et vous le voyez, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont qualifiés pour le second tour, mais ils sont à ex aequo. En tout cas, il est impossible pour l'instant de les départager pour la première place de ce premier tour.
TF1 annonce deux finalistes à égalité à 23%. Toutes les autres chaînes leur donnent 2 points d'écart. On passe au deuxième tour. Tendez bien l'oreille, une voix étrangère vient se superposer à celle de votre présentateur.
Emmanuel Macron est élu président de la République française avec 65,5% des voix.
Il devient donc le nouveau président de la République.
Et c'est la voix de Laurent Delahousse.
Et c'est la voix de Laurent. On n'a pas rêvé, c'est bien la voix de Laurent Delahousse, donc le visage de l'info sur France 2 qui est venu se superposer à celle de Gilles Boulot, le visage de l'info sur TF1. Aïe, aïe, aïe.
Oui, alors, premier tour, problème d'estimation, très clairement.
Votre institut,
France 2, d'ailleurs, avait vécu la même mésaventure il y a 5 ans. Mm-hmm. Et notre institut, effectivement, effectivement, ne fait pas les bonnes estimations sur ce premier tour. Et ça, effectivement, c'est un peu compliqué, notamment d'ailleurs pour les politiques qui sont sur notre plateau et qui doivent rebondir par rapport à ça. Ça arrive.
Et puis ça crée une forme de confusion, c'est-à-dire que d'un plateau télé à l'autre, on renvoie vers les chiffres de la concurrence en disant, qui peut-on croire ?
Bien évidemment. Et comme les téléspectateurs zappent beaucoup lors des soirées électorales,
politiques,
et c'est assez logique, ça crée effectivement une forme de confusion. C'est comme ça, ça arrive, ça n'aurait pas dû arriver, j'espère surtout que ça n'arrivera plus, mais c'est comme ça. Quant au second tour, alors là, c'est un problème de retour sur un envoyé spécial qui se trouvait dans la cour carrée du Louvre avec des grands écrans qui apparemment diffuser France 2 plutôt que TF1. Quelle erreur !
Quelle erreur ! Mais d'ailleurs, vous avez remarqué que dans le doc que vous diffusez vous-même lundi soir sur TF1, toute l'équipe Macron regarde les résultats de la campagne sur France 2 au premier
vous
comme au deuxième
tour. Notre force de persuasion n'a pas fonctionné sur l'équipe Macron puisqu'ils ont continué, même sachant peut-être que le doc allait passer sur TF1 à regarder France 2. Mais nous sommes magnanimes.
Magnanimes, c'est ça, beaucoup plus qu'avant, manifestement. La politique sur TF1, ça a été aussi deux grands débats, un premier à 5 avant le premier tour. Un autre, le rituel du débat de l'entre-deux-tours et la polémique qui le précède. Marine Le Pen refuse la présence, manifestement, d'Anne-Claire Coudray sur le plateau, confirmée en direct par Emmanuel Macron.
Ce n'est pas moi qui ai récusé un journaliste pour ce débat.
Voilà, la confirmation. Il y avait très très peu de gens à cette réunion avec le CSA, donc très peu de gens pour pouvoir témoigner de ce qui s'y était passé. Pourquoi avoir accepté cela, Catherine Mail ?
Alors ça s'est pas passé comme ça.
C'est pourtant comme ça qu'Emmanuel Macron le raconte lui-même.
Oui, peut-être, mais il n'y était pas. Mm-hmm. Et Sylvain Faure, qui y était, ne peut pas raconter quelque chose de différent de ce que j'ai vécu moi. En fait, le point a porté sur la parité. C'est-à-dire que nous avions, avec Michel Field, proposé Gilles Boulot et David Pujadas. Un candidat souhaitait qu'il y ait un couple paritaire appuyé en cela par le CSA. Donc, nous n'avions pas été prévenus avant et nous l'avons découvert lors de cette réunion avec Michel. Donc, Michel et moi, nous avons commencé à discuter entre nous sur les possibilités, même si ça n'était pas lors de cette réunion qu'il fallait régler le point, mais les possibilités. Et donc, il y a eu plusieurs noms qui sont apparus, mais pas forcément pour poser simplement la question au candidat. Plusieurs noms entre nous. Après, nous avions un point, Sonia, c'est que pour moi et pour Michel,
Michel Field, mon homologue à France 2.
Sur France 2, il était impossible, si j'ose dire, de faire disparaître soit Gilles Boulot, soit David Pujadas. Mm-hmm. Vous pouvez imaginer Gilles Boulot et Léa Salamé, Anne-Claire Coudray et David Pujadas. Mais ils étaient légitimes tous les deux pour faire ce débat. Donc, en enlever un et pas l'autre, c'était compliqué. Donc, on a choisi de faire les chefs des services politiques de TF1 et France 2, qui, fort heureusement, étaient un homme et une femme.
Est-ce que le Front National a récusé ?
Et je continue. Le Front National n'a pas récusé, mais le Front National, le Front National n'a pas récusé, puisqu'il aurait fallu qu'on propose Anne-Claire Coudray et David Pujadas. Et
comment Macron se retrouve à dire ça en direct ?
Ce que nous n'avons pas fait. Mais en revanche, Sonia, je vais terminer ma phrase, le Front National a effectivement dit « nous avons un problème ». Avec Anne-Claire Coudray. Anne-Claire Coudray, sur TF1, a fait toutes les interviews, tous les débats, toutes les émissions, avec Marine Le Pen et sans Marine Le Pen. Il aurait été hors de question que Marine Le Pen fasse une demande qui soit acceptée sur l'antenne de TF1 de ne pas faire d'interview avec Anne-Claire Coudray. Il n'en a pas été question de toute la séquence politique.
D'accord, donc vous n'avez pas proposé le nom d'Anne-Claire Coudray, il est sorti comme ça du chapeau.
Non, il n'est pas sorti.
Et le Front National a dit, on a un problème avec cette journaliste.
Nous n'avons pas proposé un couple David Pujadas-Anne-Claire Coudray, nous avons énoncé un certain nombre de noms, et effectivement le Front National a dit qu'ils avaient un problème avec Anne-Claire
Pourquoi la rédaction de TF1 ne s'est-elle pas montrée solidaire des journalistes de Quotidien ? Quotidien, c'est l'émission de Yann Barthès, c'est votre émission phare sur TMC, groupe TF1, systématiquement exclu du Front National. Beaucoup de rédactions se sont montrées solidaires, elles ont même signé un texte pour dénoncer ces problèmes-là, pas TF1.
Et nous l'avons dit sur l'antenne, pendant le second tour, nous avons demandé à notre envoyé spécial, Cyril Adriens, de faire un papier spécifiquement sur les conditions de travail, les expulsions et les gens qui n'étaient pas accrédités durant cette soirée. Nous l'avons fait sur notre antenne.
Voilà, donc vous n'avez pas choisi de boycotter comme d'autres la soirée du Front National, ni de signer
le texte. On ne peut pas
signer
quand on est 36
médias.
On ne peut pas quand on est TF1 boycotter un parti politique qui fait 10 millions de téléspectateurs. On ne peut pas. En revanche, on peut demander à son envoyé spécial de faire un papier spécifiquement là-dessus.
La vie politique sur TF1, ce fut aussi la création de cette émission intitulée Vie politique, pilotée par Gilles Boulot, dimanche en fin d'après-midi. Diffusion là aussi irrégulière, en fonction de l'actualité politique. Est-ce que vous en êtes satisfaite, Catherine Nail ? Il semble qu'il n'en soit resté aucune séquence. Il s'est dit et annoncé beaucoup de choses au journal de 20h, de cette émission, il n'est quasiment rien resté.
Non, mais ça a permis, enfin, je dirais pas qu'il n'est rien resté, parce que d'ailleurs, il y a des extraits qui sont passés hier sur le vie politique d'Emmanuel Macron. Donc, on a quand même eu en septembre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, donc les deux finalistes de cette élection. Donc, sans doute, malgré tout, qu'il y avait quelque chose d'important dans le fait de positionner dès le départ et dès le mois de juin une émission politique. Après, on a arrêté Vie politique parce qu'on n'était plus, je pense, dans le bon timing. Et c'était un peu prévisible.
Donc, pas de vie politique pour la suite des législatives, pour la fin de cette saison.
Non,
en tout cas, l'émission ne reviendra pas.
Pas pour cette saison, ça ne veut pas dire qu'on ne la fera pas.
L'année
sur
prochaine.
Des événements, oui, sur des événements avec des hommes politiques ou des femmes politiques, précisément, sur un calendrier, sur des dates, mais pas pour les législatives. Mais après le vie politique, Sonia, ce qui était important de faire et de marquer, et c'est ce que nous avons fait avec le débat à 5, c'était un autre temps. Mm-hmm. On n'était plus dans le temps d'avant, on devenait dans le temps présidentielle avec les 5 principaux candidats.
Alors, la vie politique sur TF1, ce sont aussi les propos tenus parfois à l'antenne par vos journalistes. Là, je vais parler de quelque chose de bien particulier, relayé par Nadine Morano et Marion Maréchal-Le Pen, c'est dire si la portée était tout à fait politique. Jean-Pierre Pernaut, présentateur de votre très puissant journal de 13h, est en question. Il est également... le directeur adjoint de l'information de TF1, je crois. Le CSA a mis des mois à réagir, mais a réagi en qualifiant ses propos d'encouragement à la discrimination. On le réécoute.
Les autres jours, d'autres associations prennent le relais pour adoucir un peu le quotidien des plus démunis.
Voilà, plus de place pour les sans-abri, mais en même temps, les centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France.
Le CSA a réagi. Est-ce que vous avez réagi, Catherine Nail ?
Ben oui. Évidemment, enfin, dès l'après-midi, nous en avons parlé avec Jean-Pierre. Je lui ai dit que c'était une transition malheureuse, voilà, qui n'avait pas lieu d'être. Il était lui-même fort embêté des soutiens dont vous avez parlé, parce que effectivement, c'est une atteinte à sa légitimité et sa neutralité. Mais il l'avait dit. Il l'avait dit. Après, je pense qu'il n'y avait rien de malin dans la transition qu'a faite Jean-Pierre Pernaut, mais c'était malheureux. Et je lui ai dit, et dont acte.
Et dont acte, Jean-Pierre Pernaut continue et poursuit.
Ah oui, je ne vais certainement pas retirer de l'antenne Jean-Pierre Pernaut, parce qu'effectivement, il fait une transition malheureuse. Je pense que ça arrive à tout journaliste. Donc oui, c'est pas la fin de sa carrière à cause de ça.
Non, enfin, la politique sur TF1, c'est une chaîne info continue capable de rester dans le match.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct sur LCI à 19h30 de la seconde partie de l'émission. Je recevrai ce soir le député Les Républicains des Yvelines, Henri Guénot.
Pourquoi Yves Calvi est-il resté si peu de temps sur LCI puisqu'il s'en va déjà arriver en septembre ?
Ah mais ça, faut lui poser la question, pas à moi.
Pourquoi n'avez-vous pas pu le retenir sur LCI ?
Nous sommes allés chercher Yves Calvi pour vivre une aventure qui, évidemment, parce qu'il y a une certaine pérennité, vous savez, au sein du groupe TF1, certainement pas pour vivre une aventure d'un an. Yves souhaite se diriger vers d'autres aventures, c'est son droit le plus strict.
Sa tranche fait 4 fois l'audience moyenne de la chaîne.
Oui.
C'est-à-dire que vous perdez le socle sur lequel vous avez construit sa croissance
année. Nous sommes dans une dynamique qui va au-delà de la tranche d'Yves Calvi. Bien sûr que c'est un coup dur, je vais pas vous dire le contraire. Et Yves nous a formidablement aidés cette première année dans cette dynamique. Mais maintenant, la tranche, elle existe. Avec un talk premium, une émission qui restera.
Donc vous allez maintenir le format.
Bien sûr.
Et choisir une nouvelle incarnation.
Exactement.
Que vous êtes en train de recruter.
Exactement. Qu'on est en train de chercher.
Merci. Donc vous allez revenir très bientôt pour nous dire qui. Merci Catherine Nail et à très bientôt.
À
c'est la fin de l'émission. Bonjour Ali Rebey.
Bonjour Sonia De Villers.
Oui. Alors aujourd'hui.
Alors ce matin dans Grand Rendez-vous Face, à quoi ressemblent les jeunes pères des années 2010?
Ah bah tiens.
Voilà 01 45 24 7000, les nouveaux papas des années 2010.
Manifeste donc qu'ils appellent France Inter.